Cette semaine, j'ai reçu plusieurs questions. Une jeune adolescente qui débute dans la foi m'a posé des questions. Je devais lui répondre, c'était très intéressant, j'aime beaucoup ça. Parmi ces questions, une d'entre elles, c'était « Comment chercher Dieu ?» Qu'est-ce que ça veut dire, chercher Dieu ? Comment chercher Dieu ? Et puis, vous imaginez répondre, c'est une jeune fille qui a presque 16 ans, plus par écrit. C'était intéressant pour moi. Et du coup, ça m'a obligé à chercher moi aussi, encore un peu. En regardant dans l'Ancien Testament, on a plein de versets qui nous parlent de ça. Hein. Je vous en lis quelques-uns. 1 Chronique 16, 11. « Recherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face. » Dans Amos 5, 4. « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vivez. » Et puis il y en aurait plein d'autres, il y en a dans les psaumes aussi, mais j'en ai pris deux comme ça. Donc nous savons qu'en tant que croyants, nous sommes appelés à chercher Dieu. Puis déjà, on peut se poser la question, pourquoi il faut le chercher, avant de savoir comment le chercher. Vu qu'il est Dieu, et en plus il est censé être omniprésent, pourquoi on doit le chercher ? Vous vous rappelez cette citation d'une dame française qui disait « Dieu, s'il est vrai que tu es partout, comment se fait-il que je sois si souvent ailleurs ?» Et ça m'avait beaucoup touché. Mais Dieu a voulu, alors pourquoi, j'en sais rien, mais a voulu que tout ce qui est de la valeur se cherche. Il n'y a rien de précieux qui est comme ça sans qu'on ait à le chercher. Alors est-ce que c'est le fait de le chercher qui donne sa valeur aussi? Bien sûr, dans un domaine humain, oui. Mais Dieu désire qu'on le cherche, alors qu'il pourrait effectivement s'imposer à nous. Hein. Si manifester qui il était pleinement, bon d'abord on ne le supporterait pas, mais on aurait pu aller le chercher. On le verrait, on serait tous écrasés, puis ça serait fini. Quoi. Mais Dieu a voulu dès le départ qu'on le cherche. Et on voit que même avec Adam et Ève, avant la chute, donc avant le péché, il y avait des moments où Dieu, entre guillemets, n'était pas là. Hein. Dieu venait visiter Adam et Ève. Puis il y avait des moments où il se retirait, même si effectivement, en tant que Dieu, il est toujours là. Et il fallait déjà qu'ils aient cette démarche de vouloir obéir ou pas, chercher Dieu ou pas. Pour nous, bien sûr, tout c'est compliqué, parce que nous sommes nés après la chute. Et notre cœur conserve des traces, hein, l'Ecclésiaste appelle ça les marques de l'éternité dans notre cœur, de ce désir de chercher Dieu, mais en même temps, il y a plein de choses en nous qui ne veulent pas le chercher, qui préfèrent chercher autre chose, se chercher soi-même, chercher nos intérêts, chercher à s'occuper de moi, tout simplement. Hein. Mais lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, lorsque nous sommes régénérés, lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous retrouvons la possibilité de chercher Dieu parce que, en tout cas, ce qui était cassé en nous va être rétabli, mais pas de façon automatique. C'est pas « ouais, maintenant je suis chrétien, je crois en Dieu, donc quand je me lève le matin, mon cœur cherche Dieu, c'est la seule chose qui l'intéresse, c'est ce qu'il veut ». Non, pas du tout. Mais c'est possible. Et il y a un psaume qui m'a interpellé dans ce sens-là. Je vous le lis, le psaume 27:8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. C'est intéressant comme façon de le dire. Mon cœur dit de ta part, donc il parle à Dieu, hein, cherchez ma face. Alors je cherche ta face. C'est un peu drôle, c'est pas la schizophrénie, mais c'est quand même, on dirait qu'il y en a un, mais ils sont deux, quoi. Et puis il y en a toujours un. Mais en réalité, c'est ça. Hein. Si on est honnête, et bien sûr, il faut qu'on prenne le temps pour ça, mais au fond de nous, il y a cette aspiration à chercher Dieu. Mais en même temps, il y a tellement d'autres choses. Catherine parlait du stress, moi je sais pas ce que c'est que les femmes apparemment qui ont ça. Hein. Les hommes sont jamais stressés, connaissent pas. Mais si justement on arrive à faire un tout petit peu de calme, de silence, prendre le temps, oui, au fond de nous, il y a cette aspiration, mais elle est tellement sous des couches et des couches de plein d'autres choses, pas forcément mauvaises, hein, mais qui occupent l'espace. Et il y a cette espèce d'ordre que notre âme doit donner à notre volonté. Hey, cherche Dieu. Est-ce que tu en as pas marre de vivre misérablement, de tourner en rond, de toujours revenir dans les mêmes choses, cherche Dieu. Et c'est pourquoi je dis, Ah, je te cherche, ô Dieu. Hein? Et je crois, je pense qu'on connaît tous cette chose-là, mais on a besoin de le développer. Dans l'Évangile, alors là, on est passé dans le Nouveau Testament, Jésus nous dit dans Matthieu 7:7, « Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous frappera, non, et on vous ouvrira. » Donc, cherchez et vous trouverez. Hein? Frappez, demandez. De nouveau, Jésus insiste sur ce besoin que nous allions vers lui. Hein? Et puis, c'est important, notre relation avec Dieu. Dans une relation, il doit y avoir du désir. Le désir n'est pas toujours du même ordre. Hein? Dans un couple, il y a le désir qui a une certaine forme. Entre des amis, il y a du désir aussi. Entre des amis, des frères et sœurs, mais il doit y avoir du désir, hein? Désir de rencontrer l'autre, désir de s'ouvrir, désir de partager, désir de le revoir, désir d'écouter, hein? Envie de, quand il n'y a plus d'envie, quand il n'y a plus de désir, ben c'est une maladie, hein? Ça s'appelle la dépression au bout d'un moment, s'il n'y a plus du tout d'envie, de désir, de rien du tout, mais nous avons besoin, et c'est pour ça que Jésus dit, demandez, cherchez, toquez à la porte, hein. Et puis vous trouverez. Il dit pas dans quel délai, il dit pas de quelle façon, il dit pas à quelle fréquence, mais le principe est toujours là. Et j'aimerais faire le lien avec le chant qu'on a chanté, qui pouvait paraître juste un chant un petit peu amusant, mais qui a un vrai message. Hein. Si tu as la foi comme une graine de moutarde, une petite graine, alors les choses vont se déplacer. Et voir comment la foi et le fait de chercher Dieu sont liés. Et pour ça, je voudrais vous lire encore un passage dans l'évangile de Luc. Je sais qu'on approche de Noël, mais c'est un passage sur la résurrection, c'est pas grave, on a le droit. Hein. Luc 24, 5. Donc c'est les femmes qui sont allées au tombeau, et puis là le tombeau est vide, et puis elles comprennent pas ce qui se passe, il y a un bonhomme tout brillant, là, on ne sait pas ce que c'est. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Littéralement, je regardais le texte ce matin, « Pourquoi cherchez-vous le vivant, avec un article, parmi les morts ?» Et ça m'interpellait sur ce sujet-là, parce que, effectivement, quand on cherche, ben, il faut chercher pour trouver, mais si je ne cherche pas au bon endroit, je vais avoir du mal à trouver. Vous savez que les femmes disent, je sais pas pourquoi, c'est pas vrai, mais que les hommes trouvent jamais rien. Hein, surtout dans la maison. Mais une des raisons, c'est parce qu'on ne sait pas où chercher. Parce qu'on n'a pas tout à fait la même logique, quoi. C'était évident pour nous que ça devait être là, dans ce tiroir. Mais tu sais bien que je le mets toujours dans l'armoire. Hein. Puis nous, on a retourné tous les tiroirs de la commode, hein, tout sorti, tout mis à l'envers. Et puis on dit, mais tu m'as dit que ça y était, ça y est pas. Oui, mais c'est le tiroir de l'autre meuble. Ah ! Question de communication. Mais c'est pareil dans la vie spirituelle. Hein. Dieu nous dit chercher, moi je cherche, et puis je trouve pas. Mais il y a cette phrase qui est tellement importante. Pourquoi cherchez-vous ce qui est vivant parmi les morts ? Hein. Évidemment qu'il faut chercher, mais il y a quand même un endroit pour chercher. Il y a une direction pour chercher. Et puis surtout, on doit chercher dans ce qui est vivant. Mon problème, c'est que si je vais pas bien, si j'ai des questions, si j'ai des soucis, si j'ai des difficultés, où est-ce que je cherche une solution? Si je cherche en moi, vu que le problème c'est moi, on est mal barré. Hein. Si je cherche du côté de mon égoïsme, ben oui, il y aura des choses à faire, mais je vais pas trouver la vie. Si je cherche dans d'autres domaines, mais je dois chercher la vie parmi la vie. Et pour ça, il y a ce processus qu'on n'aime pas du tout, qu'on maîtrise mal d'ailleurs, qui est rébarbatif, qui fait peur, que la Bible appelle dans son vocabulaire qu'on n'aime pas, mais qui est efficace, hein, la croix. Et puis, la mort et la résurrection. En fait, le premier dimanche de l'Avent, même si ça ne veut pas dire avant, en fait, ça ne s'écrit pas comme ça, mais c'est quand même avant, hein, avant Noël. Ça veut dire que on est dans les jours les plus sombres, même si cette année ils sont très lumineux, dans les jours les plus courts. Mais c'est avant quoi? C'est avant que les jours grandissent de nouveau. C'est avant que la lumière revienne. C'est avant que le solstice passe et puis après, de nouveau, ça va revenir vers la lumière. Mais il faut passer par là. Souvent, quand on arrive à cette période de l'année, on aimerait faire comme au Monopoly, hein, ou à certains de ces jeux-là, tirer le bon numéro et hop, je me retrouve mi-mars. Hein? En tout cas, dans notre hémisphère, quoi, hein. Sauter par-dessus. Mais on sait très bien que pour arriver au printemps, pour voir de nouveau les fleurs sur les cerisiers, les feuilles sur les arbres, etc., il va falloir passer par fin novembre et début décembre et tout décembre et janvier, et puis ça va revenir. Et puis après, on se dit, oh, mais c'est super, ouais, c'est bien. Mais il faut passer par là. Les disciples suivaient Jésus et ils auraient aimé, ils avaient un plan tout prêt. Hein. Alors maintenant, on a enfin trouvé un maître extraordinaire, quand même un sacré potentiel, il marche sur l'eau, la nourriture c'est pas un problème, il multiplie le pain et les poissons, même la mort c'est pas un problème, ni la maladie puisqu'il peut ressusciter les morts. Avec quelqu'un comme ça à notre tête, là on va faire quelque chose d'extraordinaire. Imaginez, hein, toute l'espérance qu'il pouvait y avoir chez cette équipe-là, quoi. Ça fait des milliers d'années qu'on attend le Messie, enfin il est là, il nous a choisi nous, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas on est là avec lui. On n'est encore pas si vieux que ça, on a une trentaine d'années, certains un petit peu moins comme l'apôtre Jean. On va remuer le monde. Et puis ils avaient plein d'espoir, etc. Et puis en 3 ans, tout est plié. Ouf, tout le monde l'a abandonné, il meurt, il est dans un trou, on roule une pierre dedans. Ouf, ça casse les jambes. Et puis ça remet tout en question. Et puis là, il est où Dieu? Et puis là, je cherche où surtout? Ben, je cherche dans le tombeau, hein, ou je cherche en restant seul chez moi, ou je cherche ailleurs. Hein. Mais en fait, il faut le chercher là où il est. Alors la bonne nouvelle, c'est que quand on est complètement découragé, qu'on ne cherche plus, il y a aussi toutes les fois où c'est lui qui vient nous chercher. Pierre, dans Jean 21, il est parti à la pêche, il n'a pas cherché au bon endroit, vous ne trouvez pas. Mais finalement, Jésus était là, au bord du lac. Et là, il a dû faire aussi ce travail de passer par la petite porte de la croix, par cet endroit où on a l'impression qu'on n'y passera pas entier. On va y laisser quelque chose. Effectivement, on y laisse quelque chose. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que ce qu'on y laisse, c'est pas des bonnes choses, c'est pas des choses agréables. C'est ce qui nous empêche d'accéder à l'autre côté, à l'après, à la nouvelle vie. Et la peur de passer par là fait que nous préférons vivre notre vie chrétienne de façon naturelle. Dimanche dernier, je parlais même pas de l'importance, du fait qu'il est indispensable de vivre nos vies chrétiennes par la puissance du Saint-Esprit. Sinon, c'est une torture. Puis en plus, bon, ça devient une philosophie comme il y en a plein d'autres. Est-ce qu'elle est meilleure qu'une autre? Je sais pas, le taoïsme c'est sympa, le bouddhisme a des côtés intéressants, il y a des religions paisibles comme ça. Si c'est juste une philosophie de vie, on peut préférer celle-là, mais on peut aussi en préférer une autre. Mais la force du christianisme, de l'évangile, c'est que Dieu vient vivre en nous. Et par la vie de son esprit, on n'est plus limité de ce côté de la mort, on n'est plus limité à nos possibilités naturelles, on n'est plus limité à nous-mêmes. Il y a autre chose. C'est pas juste moi qui fais des bons efforts pour être un bon chrétien, c'est que Dieu en moi peut faire des choses que j'imaginais pas, des choses qui me paraissaient impossibles. Mais entre maintenant, moi, dans ma situation bloquée, et puis ces choses extraordinaires, quand je dis extraordinaires, c'est pas synonyme de spectaculaire toujours. Hein. Extraordinaire pour moi, c'est ce qui n'est pas ordinaire, vous comprenez, hein. Pour quelqu'un qui a des difficultés pour être heureux parce qu'on est rempli de Dieu, c'est extraordinaire. Quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer avec les autres, qui tout d'un coup peut aller vers les autres et communiquer, c'est extraordinaire. Donc c'est de ça que je parle quand je parle extraordinaire, c'est pas le fait de faire des choses bizarres qui attirent l'attention. Mais entre ma vie aujourd'hui et ce que Dieu veut faire, ben, y a ce passage-là qui nous fait tellement peur, hein, parce que ce qu'on redoute plus, quand même tous, c'est la mort. Et la mort dans tous les sens du terme. Mourir à soi-même, perdre nos idées, perdre notre façon de penser, perdre notre sécurité, perdre notre indépendance, tout ça c'est la mort. Hein. Et puis y a bien sûr la mort physique aussi. Et on doit comprendre que le principe de la vie de résurrection, est quelque chose d'extraordinaire et qui est pas, on le capte pas naturellement. Et je voudrais vous lire quelques passages du chapitre sur la résurrection, 1 Corinthiens 15, au verset 13, 1 Corinthiens 15, 13. Paul dit ceci: s'il n'y a pas de résurrection, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre parole est vaine et notre foi est vaine. Le mot vaine, il veut dire sans contenu, vide. J'étais faire les courses, je suis revenu, mais mon sac est vide. J'ai été remplir de l'eau à la source, mais quand j'arrive chez moi, la bouteille est vide. S'il n'y a pas la vie de résurrection, et là je ne parle pas juste de l'espérance d'une autre vie après cette vie, dans ma vie de tous les jours, dans ma vie de croyant, jour après jour, s'il n'y a pas de vie de résurrection, donc si je suis limité au domaine naturel, si je reste toujours de ce côté, hein, on dirait je passe ma vie en novembre-décembre, parce que je ne veux pas aller plus loin, ou peut-être je reste en octobre, hein, et alors notre parole est vide, et notre foi est vide, et donc notre cœur est vide, et notre âme est vide. Et lorsque je suis vide, qu'est-ce que je fais ? Ben, je veux me remplir. Et je me remplis avec quoi ? Ben, avec ce que je veux, mais pas avec ce qui me nourrit. Et là, c'est le cercle vicieux. Je me sens vide, je veux me remplir. Et puis, alors, selon notre caractère, notre âge, la période de nos vies, notre culture, c'est la course au matérialisme, c'est la course aux conquêtes, c'est la course à la gloire, c'est la course au succès, c'est la course à l'argent, c'est la course à ci, à ça ou à autre chose. Mais c'est toujours pareil. C'est juste un cercle vicieux autour de ce vide. Et Jésus-Christ est venu nous présenter une autre voie. Et comme je l'expliquais dimanche dernier, le préalable, c'est accepter le vide. Accepter comme Pierre que j'avais dit que je suivrais Jésus malgré tout, mais j'y arrive pas. J'avais dit que même si tous les autres partaient, moi je le ferais pas. Et puis maintenant, je retourne à ma vie d'avant, je vais pécher, puis même ça, j'y arrive pas. Et c'est là que, alors que je pense que tout est fini, et je sais pas que je suis à rien, un tout petit peu de la vie de résurrection. Parce que c'était, imaginez dans quel état était Pierre après avoir renié Jésus, tourné en rond pendant plusieurs jours, rien arrivé à faire, retourné à la pêche, ça mord pas, il est là dans sa barque. Hein? Les pensées qui tournent là, j'ai raté ma vie, j'ai foutu tout en l'air, maintenant ma femme est fâchée parce que pendant 3 ans j'ai rien foutu, j'ai suivi Jésus, ça n'a rien rapporté, il n'y a rien mangé, on a des dettes, comment on va rembourser la barque, et là, et puis, et je suis un minable et j'arrivais pas, et j'avais dit que je travaillais, il y a tout ça qui tourne là, vous savez, et puis il est dans la barque, je peux même pas me jeter à l'eau pour me noyer parce que je sais nager, et il sait pas, nous on connaît l'histoire, mais lui il sait pas que il est à quelques secondes d'une autre vie. Il trouve Dieu. Il y a un échange entre eux. Et puis, ce même Pierre, quelques jours plus tard, il est debout sur des escaliers avec une foule en bas de lui, et puis il peut dire, sans rougir, sans avoir honte, sans trembler, sans être hypocrite, « Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a élevé, il est ressuscité !» Et puis il y a 1000 personnes qui se convertissent ou plus. C'est le même Pierre, hein, entre les deux, il s'est passé quoi ? Il n'est pas devenu meilleur, il n'est pas devenu plus saint, il n'est pas devenu Superman, il n'a pas trouvé une baguette magique. Entre-temps, ben, il est allé jusqu'en bas et il a trouvé la porte qui se trouve tout au fond et qui amène de l'autre côté. Il y a l'avant et puis il y a l'après. La vie de résurrection. Cette vie où, et on connaît ce verset, hein, mais il n'a pas de sens concret. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On les a tous appris à l'école du dimanche, pour la plupart d'entre nous, on les a récités, vous savez la référence, vous les savez à l'endroit, à l'envers. Mais quand on peut expérimenter ça, dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans mes difficultés, dans mes questions sans réponse, dans toutes ces choses-là, je cherche et je trouve pas, et je cherche et je trouve pas. Mais si je sais que c'est par là que je dois chercher, c'est pas en moi, c'est pas dans plus de choses, c'est pas dans plus faire, je dois continuer dans ce sens-là. On doit être déterminé comme Jacob lorsqu'il se battait avec l'ange. Pourtant, le combat était inégal. C'est évident que l'ange de l'Éternel, hein, Jésus avant son incarnation, aurait pu facilement détruire Jacob, l'annuler, le réduire en poussière. Mais il n'a pas fait ça, mais en même temps, il a permis que le combat ait lieu. Hein. Et Jacob est là accroché. « Non, je te laisserai pas partir sans que tu m'aies. Mais laisse-moi partir. Non, je te laisserai pas partir. Et laisse-moi. » Et ils se battent. Et puis c'est pas un petit... « Je te tiens par la main, lâche-moi, lâche-moi. »
Quand Jacob se relève de là, il a la hanche déboîtée. Je ne sais pas qui c'est ici qui s'est déjà déboîté la hanche en se battant. C'est violent quand même. Hein, il y en a qui l'ont fait. D'où le salto arrière sur le montant. Mais c'est violent, c'est un sacré choc. Mais après, c'est plus le même lorsqu'il repart. Hein. Bon, il faut recommencer parce qu'après, il perd ça. Et donc pour nous, si la vie de résurrection ne fait pas partie de notre expérience, je ne dirais pas quotidienne, mais régulière, notre foi est vide. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas, ça ne veut pas dire qu'on est méchant, ça ne veut pas dire qu'on est malhonnête, ça ne veut pas dire qu'on a fait faux, ça ne veut pas dire qu'on vit dans le mal, mais juste, on n'a pas ce qu'il faut pour vivre la vie chrétienne. Alors forcément, elle est difficile, elle est pénible, elle est désagréable, il ne reste plus que le sens du devoir et la discipline pour aller jusqu'au bout. Non, mais ce n'est pas ça que Dieu a prévu. C'est Christ en nous qui fait que ce que je ne pouvais pas faire, je peux le faire. Ce que je n'aimais pas, je l'aime. Ce qui ne me faisait pas envie, ça me fait envie. Et quand j'ai fini, c'était super. Si je meurs maintenant, je meurs heureux. Ma vie était pleine, ma journée était pleine. Mon âme était rassasiée. Et puis l'autre chose qui fait qu'on a peur de cette chose-là, c'est que on ne sait pas où ça va nous mener. Paul continue son explication dans le chapitre 1 Corinthiens 15, et il dit ceci. Je cherche le passage. Voilà, verset 35. Mais peut-être quelqu'un dira, comment les morts reviendront-ils à la vie? Avec quel corps paraîtront-ils? On s'est tous posé cette question. Hein. Ce sera comment? Moi, ce qui m'intriguait le plus, c'est que Jésus ressuscité, il pouvait manger du poisson et du pain, et après passer à travers le mur. Et je me suis toujours demandé si le poisson avait aussi passé à travers le mur ou s'il était resté. Comment? Avec quel corps? Ça défie toutes les lois qu'on connaît. Et Paul répond, et c'est traduit poliment, insensé que vous êtes. Langage courant. Mais vous êtes abruti. Hein. Dans la nature, allez, prenez un exemple simple. La graine que vous semez ne peut reprendre vie qu'après être passée par la mort. Lorsque vous faites vos semailles, vous ne mettez pas en terre le corps que la plante aura quand elle aura poussé, mais une simple graine, un grain de blé par exemple, ou quelque autre semence. Et Dieu lui donne le corps qu'il veut. À chaque semence correspond un corps particulier. Je pense que c'est une des choses qui nous font le plus peur. On ne sait pas à quoi ça va ressembler. Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Parce que lorsque je mets une graine en terre, à moins de l'avoir déjà fait avec cette même qualité de graine, j'ai aucune idée ce que ça va donner. Tous les gens qui jardinent savent très bien que la forme ou la taille de la graine, à l'œil en tout cas, vous donne aucune indication sur ce qui va pousser. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de mélanger vos sacs de graines. À moins que vous ayez vraiment de l'expérience. Et puis certaines, la betterave, ça va, ça se reconnaît bien. Mais mélanger des graines de salade, des graines de radis, allez les retrouver après. Et puis si on vous donne une graine que vous n'avez jamais vue, c'est quoi? C'est une plante, c'est une herbe, c'est un machin, c'est un arbre, c'est quoi, c'est pas ce que c'est. Et puis c'est pareil dans la vie avec Dieu. Oui, mais si j'accepte de passer par cette mort pour renaître dans autre chose, il va se passer quoi? Je vais plus maîtriser, je vais plus contrôler. Ça va m'amener là où je veux pas. Mais oui, c'est exactement le message de Jésus à Pierre. Quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais, tu allais où tu voulais. Mais maintenant, un autre va t'amener là où tu veux pas aller. Et ça ne veut pas dire que c'est un endroit mauvais, que c'est désagréable, que ça. Bon, pour Pierre, ça s'est quand même terminé de façon assez difficile. Hein. Il est mort martyr, mais pas malheureux, hein. Pas abandonné, pas triste. On n'a rien sur sa fin, mais quand on voit la fin de Paul, hein, avec toute la lumière qu'il y a dans cette fin qui paraît triste, hein, il est vieux, il est malade, il est abandonné, il est seul en prison, on va lui couper la tête. Oh, quelle horreur! Mais lisez ces paroles, c'est magnifique. J'ai couru la course, ouais, je vais rejoindre le Seigneur, j'arrive, je vais passer la ligne d'arrivée, salut les gars, je vous laisse, j'arrive à la maison, au revoir. Et il avait compris la vie de résurrection, il n'avait pas peur, il n'était pas abattu, et pourtant il a eu des moments hein, difficiles, où il le dit sans arrêt. Hein. Mais là, il est dans cette, de l'autre côté. Et puis pour nous, on doit accepter... Tu sais, cette expression à la mode qu'on entend partout maintenant dans la psychologie pas chère, le lâcher prise. Il y a des petits cahiers pour ça, il y a des carnets, il faut lâcher prise. J'ai rien contre, c'est intéressant. Hein. Mais le vrai lâcher prise, celui qui va réellement changer les choses, c'est si je lâche prise pour accepter de passer par la mort pour découvrir la résurrection. Et c'est difficile. Parce que oui, mais comment ça va se passer? Si je sème ça, à quoi ça va pousser? Si je me lâche, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Hein? Et c'est là où la foi n'est pas du tout un saut dans le vide sans savoir ce qu'on va faire, sans savoir ce qu'il y a derrière. La foi, c'est pas vivre sans se poser de questions, non. Mais il y a des moments où justement, basé sur la connaissance qu'on a de Dieu, sur la confiance qu'on a en lui, sur ce qu'on sait, on doit effectivement avancer sans savoir. Pas sans savoir avec qui, mais sans savoir où, comment, quoi. Hein. Comme Abraham, qui est parti sans savoir où il allait, mais en sachant que Dieu était avec lui. C'est pour ça que c'est pas un saut dans le vide. Pour nos vies, c'est la même chose. Je peux choisir de vivre ma vie de façon naturelle. Alors qu'on est dans un pays qui est encore relativement moral, ben, ça va pas être une vie dépravée. La façade, en tout cas, sera propre. Ma vie aura l'air droite, etc. Mais c'est un peu misérable. Hein. J'ai hérité d'une Jaguar et je la tire à la main. C'est super, ouais, je la bichonne et tout, je la nettoie, puis les voisins sont contents, et puis quand il faut se déplacer, je prends une corde et je la tire. Puis Dieu dit, il y a le carburant, il y a les clés. Non, mais moi je préfère, moi, pas de risque, comme ça, il n'y a pas l'excès de vitesse, et puis je sais où ça va, et puis je fais le petit tour de la maison, je la remets au garage, je la nettoie, ça va. Non, c'est fait pour faire autre chose, c'est fait pour se déplacer. Oui, mais où, comment, quelle vitesse? Commence et puis on verra. Et Dieu nous appelle à laisser nos craintes, nos peurs. Oui, mais sous quelle forme? Toi, tu as la semence, laisse-la tomber en terre, tu vas voir ce que ça va faire. Si vous lisez les biographies, si vous écoutez les témoignages de tous les gens qui ont vécu des choses qui paraissent grandes ou impressionnantes, il n'y en a aucune qui l'est, mais avec Dieu, ils vous disent tous la même chose. Oui, à la fin de sa vie, quand on raconte sa vie, ça a l'air simple, mais quand on l'a vécu, on ne sait pas ce qui va se passer après. Hein. Ben, là, il y avait cette chose à faire, je ne savais pas, mais j'ai accepté, et puis j'ai dit oui à Dieu, et puis ça a produit ça, et puis de nouveau, et puis encore, puis arrivé à la fin, on regarde derrière, on dit, waouh, Dieu a fait de grandes choses, et nous sommes dans la joie. Hein. Mais ce n'est pas moi qui ai fait de grandes choses, et ce n'est pas une formule de politesse ou d'humilité, vous savez, c'est pas moi, c'est Jésus qui l'a fait. Non, mais c'est une réalité, effectivement, je ne suis pas comme ça naturellement. Oui, je ne suis pas capable de, oui, je n'ai pas ce don-là, oui, je... Mais on le sait. Et d'abord, il faut commencer par le découvrir et l'accepter, c'est le point de départ. Maintenant, on ne va pas s'arrêter là. Hein. Être arrivé à la conclusion que, alors moi, je suis incapable de parler avec les gens. Hein. Ok, c'est bien. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Pierre non plus ne savait pas parler avec les gens. Moi, je ne pourrais jamais évangéliser quelqu'un. Ben, c'est super, parce que si tu ne fais pas ce constat-là, tu ne pourras pas aller plus loin. Maintenant, est-ce que c'est une fatalité pour toute ta vie? Non. Moi, je ne pourrais jamais... Pourquoi? Si Dieu te le demande, il va t'équiper pour le faire. Hein? Comment? Est-ce qu'on a un Dieu stupide qui demanderait à un muet de chanter, à un sourd d'écouter, à un aveugle de peindre? Non. Oui, mais aujourd'hui, j'ai pas... Non. Fais ce que je te dis, commence. Parce que la provision de Dieu, elle n'est jamais là à l'avance. Hein? Nous, on voudrait avoir une provision. Bon, mais Seigneur, ouais, je veux bien passer par la mort et la résurrection, mais comment on va faire dans un mois? Je pourrais avoir une avance? Non, chaque jour, je suis avec toi. Pour aujourd'hui, je suis là, je te suffis. Viens avec moi, je te prends la main, allez, on descend là. Ouh, c'est noir, c'est froid, c'est sombre. Chut, donne-moi la main, on y va. Oui, mais après, qu'est-ce qui va se... Et les autres, qu'est-ce qui... Chut, toi, suis-moi. Un pas après l'autre. Et puis après, c'est sûr, quand on est de l'autre côté, voilà, c'est waouh, super, on a l'impression qu'on a compris, mais vous savez, ça se répète sans arrêt. La fois d'après, c'est guère plus simple. Et il faut refaire, encore, encore, encore. Et puis, j'ai pas du tout répondu à la question comment chercher Dieu, mais c'est pas grave. C'est au moins donner envie, continuer à le chercher, mais de le chercher dans la vie, pas dans la mort, pas en moi-même. Pas dans ce qui est naturel. Parce que, effectivement, Dieu se trouve partout et Dieu peut faire ce qu'il veut. Mais il faut le chercher du côté de la vie. Et la vie, elle se trouve toujours après la croix, après la résurrection. Et on ne doit pas avoir peur. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, y compris dans l'avant, mais aussi dans l'après. Et puis, on a besoin de... Je disais jeudi soir chez Luigi, on doit revenir aux choses simples et fondamentales de notre foi. On n'a pas besoin de choses plus compliquées, de choses plus... Hein. aux choses simples, vivre avec Dieu jour après jour, passer par la croix, redécouvrir la vie de résurrection, ça, les fondamentaux. Et puis, on reprend ça tranquillement et on va s'apercevoir, ça marche. Dieu peut encore toucher mon cœur. Hein. Dieu peut encore m'émerveiller. Cette semaine, j'ai eu un ou deux petits moments comme ça où, tranquille, tout seul dans mon bureau, tout bizarre, là, avec pas trop de lumière. Un moment avec Dieu, on ne sait pas pourquoi, hein, mais qui tout d'un coup fait que je rentrais chez moi une heure après. J'avais l'impression que j'avais des choses super à raconter, mais il ne s'est rien passé de spécial. Je ne peux même pas dire ce qui s'est passé, donc du coup j'étais un peu déçu parce que j'avais rien à dire. Sauf que je repartais de là tellement rempli, tellement satisfait, pas de moi, hein, mais ah, ça fait du bien. On a besoin de ça. Puis une fois c'est par un chant, une fois c'est par une parole, une fois par une pensée, une fois par le silence, une fois par quelqu'un, une fois par rien, par autre chose. Mais on continue de chercher, de frapper, on accepte de passer par la petite porte de la croix. Et de l'autre côté, ben, il y a après, il y a la lumière, il y a la vie avec Dieu. Seigneur, nous te demandons que derrière tous ces mots qui ont du mal à communiquer ces réalités, tu viennes toucher nos cœurs ce matin. Que tu viennes nous enseigner par ton esprit, que tu nous donnes de la clarté pour voir et pour comprendre, du courage pour choisir ce que tu veux, que ton amour puisse balayer toute la crainte qui fait que nous avons peur de nous abandonner à toi, de nous lâcher dans tes bras. Viens nous rassurer pour que nous puissions affronter ce qui nous paraît sombre, pour découvrir la lumière, la vie de résurrection avec toi, Seigneur. Merci de nous conduire, merci de le faire dans nos vies. Que cette déclaration, que c'est toi qui vis en nous, soit pas juste une philosophie, une idée, une théorie, mais une réalité que nous puissions expérimenter. Et c'est un mystère, c'est une grâce aussi. Et nous te demandons de nous permettre de la vivre dans cette journée, dans les jours qui viennent. Tous ensemble, chacun individuellement d'abord. Et de nous accompagner dans cette marche vers toi, Seigneur. Amen.